Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Comment et pourquoi un fonctionnaire de la préfecture de police de Paris a-t-il pu tuer 4 de ses collègues? Au lendemain de l'attaque au couteau, les questions demeurent. La femme de l'assaillant est toujours en garde à vue ce matin. Nous reviendrons sur l'enquête dans un instant. Nous irons aussi en Italie après l'annonce de surtaxes américaines sur certains produits européens. Rome ne s'en sort pas si mal, vous le comprendrez. Et puis nous vous expliquerons comment un tétraplégique a pu se mouvoir grâce à un exosquelette, une première réalisée par des chercheurs français. Emmanuel Macron a fait observer une minute de silence hier soir à la mémoire des 4 policiers tués par un de leurs collègues à la préfecture de police de Paris. La femme du suspect est toujours en garde à vue ce matin. Lui a été abattu hier dans la cour de la préfecture. Que sait-on maintenant de lui, Julien Pasqualini ?
Cet homme de 45 ans était informaticien au sein de la direction du renseignement. Il travaillait depuis plus de 20 ans à la préfecture de police de Paris et il n'avait jusque-là jamais donné le moindre signe d'alerte, jamais présenté de difficultés de comportement selon le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. On sait aussi que cet homme s'était converti à l'islam il y a un peu plus d'un an, mais il faut rester très prudent. Aucun lien n'est établi entre sa conversion et son passage à l'acte. Rien n'indique pour le moment qu'il était radicalisé. D'ailleurs, le parquet national antiterroriste n'est pas saisi, même s'il suit de près les investigations. Pour l'instant, ce sont les policiers de la brigade criminelle qui enquêtent. Ils ont perquisitionné le domicile du suspect dans le Val d'Oise. Sa femme a été interpellée et placée en garde à vue. Et puis ses collègues doivent être entendus pour en savoir un peu plus sur sa personnalité.
L'enquête débute donc pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et il faut rester très prudent sur les motivations de l'assaillant. C'est ce que martelait hier encore David Lebars, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale française.
Quand on regarde les faits et qu'on est sur un périple meurtrier comme celui auquel on vient d'assister, il faut en exiger aucune. Je veux dire qu'il faut laisser le temps à l'enquête d'aller faire les investigations les plus complètes possibles pour ensuite commencer à éventuellement évacuer telle ou telle piste. Et je crois qu'au moment où on se parle, il faut qu'on évacue aucune. La nature même des faits, le mode opératoire et l'extrême violence doivent nécessiter la plus grande prudence par rapport aux raisons qui l'ont amené à commettre cette barbarie. Je pense qu'il faut être très prudent. L'enquête va aller de façon très approfondie dans la vie personnelle et professionnelle de cet agent. Et il faudra qu'on voit s'il n'y a pas d'autres facteurs qui ont pu faire de lui un profil qui n'aurait pas été aperçu. Mais encore une fois, je vous dis, c'est pas quelque chose que j'affirme. Je dis juste qu'il ne faut pas évacuer cette hypothèse-là, ce serait bien imprudent.
David Lebars au micro d'Antoine Marette. On va fixer des règles d'or. Emmanuel Macron s'est efforcé hier soir de rassurer sur la réforme des retraites. Il était à Rodez dans l'Aveyron pour un débat qui a duré près de 3 heures avec 500 Français. Le niveau de vie des retraités ne doit pas être dégradé, il doit être le même et même continuer à progresser. Voilà ce qu'a notamment dit le chef de l'État. Autre chantier du gouvernement, la lutte contre le réchauffement climatique. 150 personnes tirées au sort vont débuter aujourd'hui leurs travaux au sein de la Commission citoyenne pour le climat. Une sorte de réponse du gouvernement aux Gilets jaunes. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui lancera cette convention à partir de 14h tout à l'heure. La Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de France presse les autorités à négocier. Elle s'inquiète en fait de la hausse future des taxes américaines sur le vin français. Donald Trump l'a annoncé il y a 2 nuits. Avec l'accord de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, cette hausse de droits de douane va toucher toute l'Union européenne et notamment la France ainsi que l'Italie, Bruce de Gelsin.
Le parmesan pourrait coûter $45 le kilo contre 40 aujourd'hui aux États-Unis. La plus grande fédération agricole italienne a fait ses comptes. Sur 500 millions d'euros d'exportation, les pertes sont chiffrées à 10 voire 15%. Mais cela dépendra de la réaction du consommateur américain, Lorenzo Bazzana de la Fédération agricole Coldiretti.
D'un côté, certains peuvent dire « Non, moi j'apprécie ce produit et je peux dépenser un peu plus pour l'acheter. » Mais il peut aussi y avoir la version patriotique. Moi, je ne l'achète plus.
Mais même si les pertes sont moins fortes qu'estimées, Lorenzo Bazzana estime que l'Italie n'a pas à être taxée. Et pour une bonne raison.
On met des droits de douane parce que certains ont donné des subventions à Airbus. Mais l'Italie n'a joué aucun rôle dans Airbus.
L'Italie s'en sort mieux que ses voisins. La mozzarella, l'huile d'olive, le jambon d'appellation contrôlée ne seront pas taxés. Le vin non plus, ce qui fait même dire à la Fédération agricole, Coldiretti, que le vin italien pourrait en profiter puisque son concurrent français, lui, devrait être taxé.
Et nous nous pencherons justement dans le journal de 7 heures sur les conséquences de ces surtaxes américaines, sur les conséquences en France. L'état d'urgence a été déclaré en Équateur par le président Lénine Moreno. Un peu plus tôt hier, des manifestants avaient fortement protesté contre la hausse des prix du carburant dans le pays, incendiant des barricades, lançant des pierres contre les forces de l'ordre. Cette semaine, Lénine Moreno a annoncé que son gouvernement allait supprimer des subventions au carburant pour réduire le déficit budgétaire de l'Équateur. Des manifestations pour plus de pouvoir d'achat, c'est aussi le cas en Irak, où là les affrontements avec les forces de sécurité ont fait au moins 27 morts en 3 jours. Hier, 4000 personnes ont bravé le couvre-feu à Bagdad. C'est une prouesse technologique qui sera présentée à la presse lundi prochain au centre de recherche biomédicale Clinitech à Grenoble. Une revue scientifique américaine en publie déjà les résultats cliniques ce matin. Et sachez donc que pour la première fois, un homme tétraplégique a pu se déplacer et contrôler ses mains grâce à une neuroprothèse, Véronique Pueyo.
Thibaut, 28 ans, est tétraplégique. En juin 2017, deux petites plaques de quelques centimètres carrés bourrées d'électronique ont été implantées sur les deux hémisphères de son cerveau, juste sous la boîte crânienne, sans qu'aucun fil ne dépasse, une matrice qui n'a pas été rejetée par son corps. Le jeune homme s'est ensuite entraîné durant plus de 2 ans pour contrôler l'exosquelette, une sorte d'armure qui lui permet de se tenir debout. Pour faire simple, quand il pense le mouvement, son cerveau émet des ondes électriques. Elles sont captées par la neuroprothèse qui les analyse et qui transmet ses signaux à l'exosquelette qui lui permet de bouger ses membres paralysés. Le patient a ainsi été filmé en train de faire quelques pas et de porter un verre à sa bouche. Bien sûr, les gestes ne sont pas fluides, mais c'est une première mondiale. Pour l'équipe de Clinatech qui travaille sur ce dispositif, c'est une avancée importante vers l'autonomie pour les personnes handicapées. L'ambition à terme est de décliner cette interface cerveau-machine pour le pilotage, par exemple, d'un fauteuil roulant ou d'un bras articulé.
Véronique Pueyo de France Bleu Isère pour France Culture. La Cour de cassation rend aujourd'hui sa décision sur un cas de GPA, de gestation pour autrui. Le cas de jumelles nées par GPA en Californie aux États-Unis il y a 19 ans. Un dossier qui soulève la question du statut en droit français de la mère d'intention. Alors qu'hier, la majorité a fait voter à l'Assemblée nationale un amendement à ce propos. Il acte la reconnaissance en France de la filiation d'enfants conçus par GPA. Le gouvernement s'est positionné contre cet amendement et a aussitôt réclamé une seconde délibération, malgré le premier vote donc de la majorité. La direction de General Electric se dit disposée à réduire de 150 au maximum le nombre de postes supprimés sur le site de Belfort. Initialement, 792 emplois devaient être supprimés, 50 de moins donc au maximum, dit finalement la direction. Les syndicats craignent une réduction drastique des acquis pour les salariés qui resteraient sur le site. Une fois n'est pas coutume, un nouveau journal de presse écrite arrive en kiosque ce matin. La Croix Hebdo, déclinaison hebdomadaire du quotidien La Croix, édité par le groupe Bayard. À l'heure du tout numérique, La Croix Hebdo fait le pari de proposer un rendez-vous de lecture sur papier pour fouiller les sujets. Son directeur Guillaume Goubert nous explique sa stratégie.
Il faut quelque chose de plus que le numérique pour nouer des relations soutenues avec des lecteurs. Cet hebdomadaire, c'est un peu le chaînon qui est nécessaire entre le quotidien papier et l'abonnement numérique. Nous pensons que beaucoup d'abonnés numériques, nos abonnements numériques se développent très rapidement, nous approchons les 20 000, mais il faut les fidéliser, leur taux de fidélité n'est pas très élevé, il est de l'ordre de 50%. Nous pensons qu'un rendez-vous hebdomadaire sur papier est de nature à les fidéliser, avoir toute la semaine le flux de l'info sur son téléphone portable, sur sa tablette, sur son ordinateur, et une fois par semaine, un rendez-vous de lecture, un rendez-vous qui permet de se poser, d'aller à fond dans des sujets.
Guillaume Goubert, le directeur de La Croix, interrogé pour France Culture par Stanislas Vazak, il était l'invité du journal de 22h hier soir sur France Culture. La presse écrite encore, Emmanuel Macron qui va visiter aujourd'hui le siège du journal La Montagne à Clermont-Ferrand. Le quotidien fête ses 100 ans, un événement dans la presse écrite à l'heure où justement les quotidiens régionaux et nationaux sont soumis, je vous le disais, à une vive concurrence d'Internet, concurrence sur les réseaux sociaux notamment. Le temps sera pluvieux ce vendredi sur le nord et l'est de la France, nuageux sur le reste du pays. Comptez ce matin 10 degrés à Strasbourg, 14 à Lille, 15 degrés à Amiens, 16 degrés à Rennes et 22 en Corse.